Semaine bénie, pour nous ça a été le cas, c'était une belle semaine. C'était une belle semaine qui va se conclure, je le crois, dans la joie et dans l'amour tous ensemble aujourd'hui. Un petit temps d'annonce, on va évidemment reprendre nos bonnes habitudes. Je suis très content de pouvoir partager la parole de Dieu aujourd'hui, ce matin, en ce jour si particulier de Pâques. J'aimerais commencer par une petite question. Petite devinette, je vais vous donner un chiffre avec une unité de mesure derrière et vous allez essayer de deviner à quoi ça correspond. 7,3 kilos. C'est pas le poids que j'ai perdu cette semaine. Et plaise à Dieu que c'est pas le poids que je vais reprendre après. 7,3 kilos. Est-ce que vous avez une idée? C'est en rapport avec la fête de Pâques. Chocolat. Alors, en vrai, c'est ce chiffre, c'est la quantité moyenne de chocolat mangé par les Français à l'année. Et c'est un tiers de ce chiffre-là qui est consommé pendant les deux semaines qui suivent Pâques. Donc vous allez peut-être manger 2,5 kilos de chocolat dans les deux semaines qui viennent. C'est ce qui se dit, hein. Les chiffres ne mentent pas, paraît-il. Donc voilà, attention à la crise de foi. Et vous allez voir le jeu de mots. La crise de foi, on la vit en ce moment dans notre pays. La crise de foi, elle est présente. La foi spirituelle, bien sûr, vous avez compris. En préparant ce message, j'essaie de me remémorer comment on faisait quand j'étais jeune dans ma famille. Dans ma famille, donc je viens d'une famille qui n'était absolument pas chrétienne, athée, hermétique à toutes les choses de Dieu. Donc, mais on fêtait Pâques. Bizarrement, on fêtait Pâques. Culturellement, on fêtait Pâques, exactement. Donc c'est quelque chose qui a toujours été là. On avait les vacances, on était content d'avoir les vacances de Pâques. Et surtout, en fait, il y avait cette tradition qui faisait qu'en fait, les adultes allaient cacher des chocolats dans le jardin. Et nous, les enfants, on arrivait avec notre panier et on en mettait le maximum qu'on pouvait. J'ai même que j'en piquais dans ceux de mes cousins et mes cousines, ou de ma cousine. Frustration, après, on ne pouvait pas tout manger. Donc déjà, c'était une frustration. Donc on avait le chocolat, on avait les œufs de Pâques. Et après, on mangeait l'agneau. Donc on mangeait l'agneau de Pâques. Voilà, c'était ça. Le repas me paraissait interminable quand t'es enfant. En plus, t'as une tonne de chocolat, mais tu peux pas les manger. Enfin, voilà. Donc, je me rappelle de ça, mais on ne nous explique pas pourquoi on fait tout ça. Ça s'est perdu. La tradition, c'est un peu perdu. On fait des choses, on ne sait pas vraiment pourquoi. Alors que si on regarde bien, on va reprendre un petit peu, souvent, on a des œufs de Pâques. Les œufs, ça, c'est un héritage du Moyen-Âge. C'est quelque chose que... Pendant la période du carême, donc avec l'héritage catholique, pendant la période du carême, les œufs étaient peints. Donc les gens dessinaient dessus, ils faisaient alors souvent des œufs durs, ils les peignaient. Et ils n'avaient le droit de les manger qu'à la fin du carême, pour rompre le jeûne. Cet œuf symbolisait la vie nouvelle. Donc vous voyez, dans la symbolique, on se rapproche déjà. Et il y a toujours eu l'agneau. L'agneau, ça pour le coup, c'est vraiment la symbolique qui est en rapport avec le sacrifice de Jésus. Donc ça, ça a toujours été là en filigrane, mais si personne n'est là pour vous l'expliquer... Comment voulez-vous qu'on le sache? Pâques, à la base, c'est une fête juive. J'espère que vous le savez. À la base, c'est une fête juive et ça vient de Pessah. Pessah, en hébreu, ça veut dire le passage. Le passage de quoi? Le passage de l'hiver au printemps. Donc c'est un passage de saison. Passage de la mort à la vie, le passage de l'esclavage à la liberté. Pourquoi de l'esclavage à la liberté? Parce qu'à la base, de toute base, la première Pâque est arrivée pour la 10e plaie d'Égypte. Lors de la 10e plaie d'Égypte, pour ceux qui se rappellent l'histoire ou qui ont vu le dessin animé avec la super chanson, si vous avez vu le dessin animé, on voit qu'à un moment donné, le pharaon est tellement en colère que Dieu envoie des plaies sur son pays, il en envoie 10 à la suite, de plus en plus dures, pour essayer de contraindre son cœur pour qu'il puisse laisser partir son peuple en esclavage en Égypte. Et donc cette dernière nuit, pour la 10e plaie, Moïse donne à son peuple un certain nombre de commandements pour qu'il puisse, je vais vous le redétailler un petit peu après, mais qu'il puisse passer outre ce jugement que Dieu va mettre sur le peuple égyptien. La 10e plaie, c'est la mort des derniers-nés dans les familles. Donc du coup, c'était une plaie très très difficile à vivre, et du coup, c'est ça qui va emmener Pâques. Et ce Dieu-là va passer au-dessus du pays d'Égypte, donc Pessah, il va passer au-dessus du pays d'Égypte. Pessah, il y a un jeu de mots aussi, que nous, on ne peut pas comprendre aujourd'hui, mais Pessah, si on l'écrit en deux mots, c'est la bouche qui parle. C'est la bouche qui parle. Et en fait, aujourd'hui, c'est là tout l'enjeu dans les familles juives. La bouche qui parle. En fait, on est là-dessus parce qu'après, derrière, une fois qu'ils vont, les premiers-nés des Égyptiens vont mourir, Pharaon va laisser partir le peuple, et c'est là qu'il y aura le passage avec la mer, etc., qui se coupe en deux. Ça, vous avez aussi, pareil, vu le film. Donc ça, c'est à la suite de ça. Donc ils seront libérés. À la suite de ce passage-là, ils seront libérés. Et Pessah, c'est aussi la bouche qui parle. Et dans les familles juives, ça, c'est quelque chose qui doit absolument rester, c'est la transmission. C'est des valeurs de transmission. Ce repas-là, pour les Juifs, est absolument particulier. Il bouleverse un petit peu les codes habituels, et il se rappelle, il se raconte les histoires. Il y a le patriarche, le grand-père ou le père de famille qui va raconter ce qui s'est passé en ce temps-là. Ils vont le raconter d'une manière très théâtrale, avec de la musique, avec des instruments, pour que ça puisse être quelque chose de vivant et que les enfants en soient captivés. Parce qu'en même temps, ils vont raconter l'histoire de leur peuple. Et c'est toujours bien de connaître l'histoire de son peuple, parce qu'on voit au jour d'aujourd'hui que tout est déconstruit, que rien ne va plus, que des gens qui étaient appelés des héros autrefois, aujourd'hui, ne sont plus des héros, qui ont écrit certains ouvrages, on essaye de les réécrire, etc. Donc la tradition, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses dans la tradition, il y a des très bonnes choses dans la transmission. Et c'est exactement ce que font les Juifs le jour de Pâques. Ils se transmettent un souvenir. Ils se souviennent qu'ils étaient esclaves pour mieux se rappeler aujourd'hui, être encore plus contents de ce qu'ils sont libres aujourd'hui. Amen. Ok. Et c'est un devoir de mémoire. C'est un vrai devoir de mémoire. Donc ça, dit comme ça, ça fait un peu solennel, un peu pompeux. Ça fait presque ministériel. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien qui est solennel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout qui est solennel. Il n'y a plus rien qui est saint, il n'y a plus rien qui est sacré. Tout part à volo. Et ces occasions de Pâques sont aussi là pour se rappeler ce qui est saint, ce qui est sacré. Donc on est là aussi pour se rappeler. Donc déjà, nous, premièrement, le sacrifice de Jésus. Mais à l'époque, les Juifs étaient vraiment là pour se rappeler tout ce qui était, sacré. Lorsqu'on lit la Bible, elle n'a pas changé. La Bible n'a pas changé, elle est immuable, elle ne bouge pas. Il y a des fois des traductions un peu plus modernes pour qu'on ne s'y perde pas dans le vieux français, etc. Mais elle ne reste pas inchangée. Elle reste inchangée. Les sens de mots peuvent être un petit peu détournés, mais le sens profond lui reste le même. Lorsqu'on lit la Bible, en fait, on fait notre devoir de mémoire. En tant que chrétien, lorsqu'on lit la Bible au jour le jour, on fait notre devoir de mémoire et on rend gloire à Dieu en lisant notre Bible. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut... pas qu'on oublie, je pense que c'est quelque chose qui doit être quotidien. Je sais que c'est des fois très difficile d'ancrer cette routine dans notre quotidien parce qu'on a les quotidiens à 200 à l'heure et qu'on fait tout ce qu'on peut déjà notre possible pour être des bons parents, des bons collègues, des bons amis, etc., etc. Mais la lecture de la parole doit être notre moyen de nous ressourcer et de faire notre devoir de mémoire envers Dieu. Si tu fais ton devoir de mémoire correctement, ça va te conduire à l'admiration. Si tu as une certaine admiration, ça va te conduire au respect. Si ça t'emmène au respect, ça va te conduire à la crainte. La crainte, pas celle qui paralyse, mais la crainte de Dieu, celle qui libère. C'est bizarre de dire ça. Comment une crainte peut te libérer? Mais en fait, quand on a nos enfants, quand on élève nos enfants, ils nous craignent. Enfin, j'espère. Des fois, ils nous craignent. Mais c'est pour leur. Enfin, ils savent que quand ils dépassent les bornes, il va se passer quelque chose, il y aura une sanction. Et c'est la même chose pour Dieu. Nous, on sait des fois quand on dépasse les bornes, il n'y a peut-être pas forcément toujours des sanctions, mais des fois, il y en a. Et en fait, il ne faut juste pas se rappeler, pas oublier, pardon, que nous sommes des enfants. Nous resterons toujours des enfants pour Dieu. Donc il faut qu'on soit présent, qu'on ait une crainte, qu'on ait un respect pour les choses de Dieu. Et la fête de Pâques, elle est là pour ça. Elle est là pour se rappeler le respect et la sainteté de Dieu et le sacrifice incroyable qu'il a fait pour nous. Ricardo l'a tellement bien exprimé avec toute la sincérité de son cœur qu'il n'y a rien à ajouter après ce que Ricardo a dit. Vous avez tout compris avec ce que Ricardo a donné. Quand on arrive à avoir un cœur aussi tendre, avoir un cœur aussi doux et à pleurer, maintenant moi aussi ça m'arrive. Voilà, c'est quelque chose... C'est écrit dans la parole qu'il a remplacé notre cœur de pierre pour en faire un cœur de chair. Et amen, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé pour ma vie, c'est ce qui s'est passé pour la vie de beaucoup. Et de voir des hommes pleurer sans vouloir jouer le macho, sans vouloir jouer les gros bras, c'est aussi quelque chose qui touche. C'est quelque chose qui touche parce qu'on voit la sincérité de la transformation. Mais j'ai vraiment à cœur, les amis, que vous puissiez vivre ce que Ricardo a vécu, ce que j'ai vécu, ce que beaucoup ont vécu ici, d'avoir un cœur qui devient malléable, qui devient un vrai cœur de chair. Ce cœur de chair va se transformer en cœur d'adorateur, et ça, Dieu, il va apprécier, il va honorer, et vous serez bénis, croyez-moi, vous serez bénis. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit peu mon patriarche juif, je vais essayer de vous raconter une petite histoire. On va lire ensemble un texte, et après je vais vous faire un petit... pas un jeu de rôle, mais je vais vous faire une petite mise en situation. On va lire Exode 12, 22, si tu veux bien l'afficher, Norbert, s'il te plaît. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans les bassins. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Ça, c'était la consigne que Moïse... Enfin, que Dieu a donné à Moïse et que Moïse a redonné à son peuple lors de la dix plaies. Okay, vous vous souvenez? Vous l'avez? J'aimerais qu'on reprenne un petit peu ça et qu'on se transporte à ce moment-là de l'histoire. Si c'était nous qui étions en train de vivre ce moment, on va prendre comme s'il y avait deux familles. Une famille à la certitude que Dieu va faire, enfin, en faisant ce que Dieu dit, ça va très bien se passer, et une autre est un peu plus hésitante. Donc imaginez un dialogue entre ces deux familles. Il y en a un qui dit « Ouais, mais tu te rends compte, t'as vu, c'est un peu bizarre ce qu'ils nous demandent de faire. On prend un agneau, là on l'égorge ici, puis après avec l'hysope, on met partout. C'est bizarre, est-ce que tu crois que ça va bien se passer, etc. » Et l'autre, il est sûr de lui. Il dit « Oui, si Moïse l'a dit, voilà, c'est la parole de Dieu qui est venue à travers sa bouche. Si Moïse le dit et Dieu le fait, ça va bien se passer, t'inquiète pas. » Et l'autre dit « Mais attends, te rends compte, et si mon plus grand, il meurt, mais comment je vais faire, etc. Qu'est-ce qui va se passer, ma vie sera détruite, je ne serai pas bien. » Blablabla, blablabla. On peut imaginer ce genre de conversation, parce qu'elles ont dû avoir lieu. Je veux dire, c'est quand même étrange comme situation. C'est quand même étrange comme situation. Donc, on imagine ces deux-là en train de converser, et ils vont faire malgré tout, les deux vont faire vu qu'ils sont juifs, ils vont faire ce qu'ils ont dit. Ils vont faire ce que Moïse a dit. Je vais vous faire un... Vu que c'est même pas qu'on a sorti les gros moyens ce matin. Hop. Alors ceci est une porte. Vous avez reconnu? Ok, merci beaucoup. C'est moi qui l'ai dessiné, c'est pas ma fille. Hein. Vous voyez bien ou pas? Non, vous voulez que je avance? Là, ça va? Ok, merci. Donc ici, il y a l'agneau. Je ne vais pas dessiner un agneau parce que ça va être catastrophique. Là, j'écris. Agneau. L'agneau, il va être là. Et donc il va être dans un récipient. On va devoir l'égorger. Après, son sang va couler. On va prendre l'hysope. Voilà, ce sont les fleurs. On va prendre l'hysope avec les feuilles. On va le tremper dedans. On va en asperger ici, des deux côtés, et là. Et il y a le sang ici. Un peu bizarre, non? Non, moi, je trouve ça bizarre. Hein. On va pas se mentir que c'est un peu bizarre. Donc dans notre histoire, si on reprend notre histoire, ça se passe comme ça. Ils le font tous les deux. Celui qui a de la crainte, qui a peur, qui est stressé, et celui qui est sûr de son coup. Le lendemain matin, dans les familles, à votre avis, dans laquelle des deux familles, l'enfant est mort? Aucune. Ben voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont été couverts par le sang de l'agneau. Et c'est exactement ce qui se passe avec nous, les amis. On a été couverts par le sang de l'agneau. J'avais envie de revenir sur cet agneau, parce que c'est quelque chose, en fait, on entend, on le mange par tradition, puis on en entend dans les chants, etc. Et on ne sait jamais trop d'où ça vient. Mais le sang de l'agneau qui nous couvre, c'est ça, la base. La base est ici. Et pourquoi la branche d'hysope? Parce que l'hysope, ça symbolisait l'humilité. L'hysope était le symbole de l'humilité. L'humilité qui est venue sur terre, c'est ce qu'a fait Jésus pour nous. Et en fait, si on relit le sang, les amis, la croix est là. La croix a toujours été là, l'agneau a toujours été là pour nous protéger. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Et avec le sang de l'agneau, il nous a protégés. Et il nous protège toujours. Il nous a protégés, il nous protégera toujours. Ricardo l'a dit, et il nous aimera aussi toujours. On va lire un autre texte. Et on va retrouver la branche d'hysope. On va la retrouver un petit peu plus loin, mais là, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, dans quelque chose qui va dire qui nous concerne plus, même si j'aime pas trop dire ça. Dans Jean 19, 28 et 30, versets 28 et 30. Merci, Norbert. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit pour que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de vinaigre au bout d'une branche d'hysope, et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Il pencha la tête et rendit l'esprit. Il est mort. C'est ce que ça veut dire, rendir l'esprit. On lit quoi au verset 29 ? Au bout d'une branche d'hysope. Au bout d'une branche d'hysope. Au bout de l'humilité. Au bout de l'humilité. Tellement au bout de l'humilité qu'on est même dans l'humiliation. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont humilié le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se souvienne toujours. Jésus, lui, s'est rabaissé, il s'est humilié, il était allé au bout de l'humilité. Cette branche d'hysope au bout, c'est vraiment pour symboliser jusqu'au bout de l'humilité. C'est vraiment... Jésus, il est allé à l'extrême limite que nous, on n'ira jamais, à l'extrême limite de l'humilité. On n'ira jamais, on ne touchera jamais cette limite-là. Plaise à Dieu qu'on y arrive un jour, mais je ne pense pas. Et on pourrait faire beaucoup de parallèles avec la Pâque juive, la mort de Jésus avec le sacrifice de l'agneau. Je vais vous en livrer quelques-unes en vrac, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire que ça prendrait beaucoup de temps. Mais par exemple, l'agneau, avant d'être égorgé, doit être mis à part, sanctifié pendant 3 jours. Ça, c'est important. Le ministère de Jésus, il a duré 3 ans. Voilà, vous avez fait. La Bible fait souvent ce parallèle entre 3 jours et 3, enfin, entre les jours et les ans. Donc 40 ans, 40 jours, etc. On le voit, 3 ans, 3 jours. Donc là, c'est la même chose. Jésus est mort à la 6e heure du jour, donc soit à midi pour nous. C'est l'heure à laquelle on devait tuer l'agneau. Pile poil. Jésus est mort sans aucun os brisé. Et ça, c'était aussi une des conditions pour que l'agneau soit cachère, donc qu'il soit saint et qu'il soit aussi véritable, sans tache, etc. etc. Et Jésus est mort sans qu'un de ses os ne soit brisé. Donc, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Et puis je vais faire un peu de promo en même temps pour Michel. Il y en a qui ont vraiment fait ces parallèles-là, qui ont fait plein de choses. Il y a beaucoup de prédications là-dessus, entre le parallèle de la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Notre très cher apôtre Michel a écrit ce livre de la Pâque. Alors, c'est notre Pâque, les 5 coupes, c'est ce qu'on a fait un petit peu cette semaine. C'est le thème qu'on avait cette semaine. Donc c'est un livre qu'il a voulu, lui, pour imiter un petit peu la tradition juive, mais en la ramenant dans notre Pâque à nous chrétienne. Donc c'est quelque chose, c'est un support qu'on devrait avoir en famille pour qu'on prenne à chaque fois 5 coupes et qu'on se rappelle à chaque fois où le sang de Jésus a coulé. Donc c'est, voilà, c'est le but de ce livre-là qu'il a fait, c'est illustré. Le but normalement c'est de le lire pendant les repas de Pâques, entre famille, entre amis, pour pouvoir voilà, suivre un petit peu le processus et bien se rappeler, bien faire notre devoir de mémoire quant au sacrifice de Jésus. Donc voilà, on en a ramené 10 exemplaires, si ça vous intéresse, on en a ramené 10. Il est à 18€, je crois. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous en voulez, j'en ai pris 10 pour qu'on puisse éventuellement partager ça ensemble. Donc voilà les amis, j'en ai fini pour la partie juive de la Pâque. Donc le Seigneur nous a rendu notre liberté, et on voit que la croix a toujours été présente. Le Seigneur cette semaine, dans le temps de jeûne, m'a interpellé. Il m'a interpellé assez violemment. Cette semaine a été une semaine particulière pour moi. Où quand tu jeûnes, à un moment donné, il y a un switch qui se fait, il y a un passage qui se fait, où tu reprends contrôle de ton corps, quand tu ne manges pas, tu reprends possession à un moment donné, tu es aligné, à un moment donné, ça s'aligne. Et je n'ai pas vécu ce moment-là. Et j'ai été vraiment challengé cette semaine, où ça a été très dur. Et Dieu est venu en plus me percuter avec une question. Ok, je t'ai rendu libre, tu es passé de la vie à la mort, de l'esclavage à la liberté, et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais de cette liberté ? Qu'est-ce que tu fais de cette liberté ? Comment tu, avec la liberté que je te donne, comment tu impactes tes collègues ? Comment tu impactes tes amis ? Comment tu impactes ta famille ? Comment tu impactes ton mariage ? Comment tu impactes, etc., etc. Et là, ça m'a fait mal cette semaine. Ça m'a fait mal cette semaine parce que on a toujours l'impression de faire les choses bien, ou en tout cas, on se considère moins pire que les autres. Et cette question, elle a vraiment résonné, elle m'a vraiment challengé. Et il m'a dit, cette question aussi, il faut que tu la poses à ton église. Donc je vous la pose. Qu'est-ce que vous faites de votre liberté ? L'idée, ce n'est pas de casser l'ambiance, hein, vous comprenez bien, c'est juste qu'on prenne conscience de ce qui se joue en ce moment et de ce qui se joue surtout à l'extérieur d'ici. Et moi, personnellement, je suis dans une famille assez modeste et j'ai horreur du gaspillage. J'ai horreur du gaspillage. Quand les filles chez nous gaspillent, ça me rend fou. Et en plus, j'ai eu la grâce de pouvoir aller au Congo. J'ai vu des choses Et je leur dis tout le temps, mais mes parents faisaient les mêmes phrases, mais c'est énervant. Il y a des petits en Afrique qui n'ont pas à manger. Et du coup, ça, c'est le gaspillage, c'est quelque chose, ça me rend fou. Ça me rend fou. Mais est-ce que nous, on ne fait pas la même chose? Est-ce qu'on ne fait pas du gaspillage spirituel, les amis? Est-ce qu'on n'est pas des enfants gâtés, des fois, de Dieu, et qu'on fait du gaspillage spirituel? Je vous pose aussi la question. Est-ce qu'on n'est pas... Est-ce qu'on n'empêche pas certaines personnes de venir à Dieu parce qu'on n'est pas à l'écoute, parce qu'on n'est pas juste disposé avec le Saint-Esprit qui est capable de nous impacter, de nous donner. En plus, ce n'est même pas nous qui travaillons, c'est le Saint-Esprit qui vient travailler à notre place et les mots sortent. Normalement, on n'a rien à faire. Tu sais ce que tu dois dire, tu sais comment tu... c'est même pas toi qui le dis. Donc, je pense qu'il faut qu'on retravaille notre intimité avec Dieu et qu'on ne gaspille pas cette liberté qu'il nous a offerte. Est-ce que parfois on n'a pas honte de parler de Jésus? Moi, ce n'est pas mon cas, c'est peut-être un peu trop des fois. C'est peut-être l'extrême contraire, il faudrait peut-être que j'apprenne à plus écouter les gens avant de leur balancer Jésus des fois. Mais est-ce qu'on n'a pas honte de parler de Jésus? Pessard, on l'a dit aussi que ça voulait dire la bouche qui parle. Voilà, il ne faut pas qu'on ait honte de proclamer, de parler de notre Sauveur, celui qui a changé notre vie. Est-ce qu'on est obligé de le faire à tout bout de champ? Non, je pense qu'il faut aussi qu'on soit là pour écouter nos amis, nos collègues de travail quand ils ont des complaintes. Et vous allez voir, parce qu'il y en a beaucoup, on est quand même des fois moqués, on ne va pas se mentir. C'est une petite persécution, hein, c'est une persécutionnette, je ne sais pas comment on va appeler ça. C'est tellement une petite persécution que ça... Voilà, des fois il y a des collègues qui se moquent, etc. Mais le jour où ils sont dans le... Vous avez compris, dans l'embarras? Le jour où ils sont dans l'embarras, qu'est-ce qu'ils vont venir chercher? C'est vous? Ça, c'est sûr et certain. Vu, revu, 100 fois. Le jour où ils sont dans l'embarras, c'est le petit chrétien de qui on se moque qui vont venir chercher. Ça, c'est sûr et certain, les amis. Et là, il faudra qu'on... Pas qu'on soit orgueilleux du genre, ah, tu vois, hein. Non, il faudra qu'on soit à l'écoute, qu'on soit comme Jésus, qu'on ait un cœur disposé et qu'on ait compassion. Il faudra qu'on ait compassion, les amis. Ce sera à ce moment-là qu'il verra encore plus la grandeur du Dieu qui nous a sauvés. Et soyons vraiment cette bouche qui parle, parce que cette bouche qui parle, par la grâce de Dieu, dans notre Église, on vit des choses. On vit des choses, on vit des guérisons, on vit des situations professionnelles qui se débloquent, J'ai tellement pas des... On a dit qu'on devait noter parce que vraiment on a tellement eu de grâce cette année, on a tellement vécu de victoire que on a eu de la guérison, on a eu... Je dis ça comme si c'était normal, mais c'est notre quotidien. Amen. Heureusement, on a la grâce de Dieu sur notre église et on vit des choses, on vit vraiment des choses. Et il faut aussi qu'on soit cette bouche qui parle et ceci des yeux qui témoignent de ce qu'ils ont vu à travers notre bouche. On a vu des choses. On ne peut pas se taire. On a vu des choses. On a vu la main de Dieu. On a vu des guérisons. Donc il faut qu'on le proclame, il faut qu'on sache le dire, il faut qu'on sache... voilà, des gens, quand ils vont te questionner, mais t'étais où mardi soir? Pourquoi tu vas à l'église au mardi soir? Bah parce qu'il y a des miracles, parce que... Ah ouais, il y a des miracles, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on arrive à témoigner de manière fluide, de manière souple. Encore une fois, c'est le Saint-Esprit qui doit parler à notre place. Et on a tellement de choses à raconter, les amis. Tellement, tellement, tellement. J'ai quelque chose à cœur, je n'avais pas prévu de le dire, mais je vais le dire. On en a parlé un petit peu hier soir. J'ai vraiment à cœur qu'on puisse aller en Afrique. J'aimerais qu'on arrive à organiser un voyage avec notre église, pour tous ceux qui seraient motivés, et qu'on aille un petit peu se confronter au terrain. Qu'on aille se confronter au terrain. Pas dans les hôtels. Hein. Allez. Moi, j'irai à l'hôtel, vous irez dans le... Mais j'ai vraiment à cœur, ça. Parce que c'est un booster de foi incroyable. Parce que eux, le Seigneur, notre pain quotidien, c'est une vérité. Nous, le pain, on en jette... les gars, on gaspille, encore une fois. Du pain, on en jette... On en gaspille et j'aimerais qu'on arrive à organiser ça. Je ne sais pas encore sous quelle forme, c'est quelque chose que je vous livre comme ça. Je n'avais pas prévu de le dire, mais j'aimerais qu'on puisse vivre ces choses-là aussi en église. Parce que ça va aussi renforcer nos liens, ça va aussi faire en sorte que nos yeux, des fois occidentaux, bien lotis, puissent s'ouvrir. S'ouvrir sur la souffrance, s'ouvrir sur les cœurs. L'idée, après, c'est pas de revenir et d'aller vivre au fond dans un champ avec une réserve d'eau et puis trois morceaux de palmier. Hein. C'est pas ça la question. Hein. C'est vraiment de vivre des choses en communauté et de remettre en question notre foi. Remettre en question notre foi et notre confort ici. Le confort, il y aura un basculement à un moment donné ici. Hein. On le sent arriver. Hein. Il y aura un basculement. Et si on va déjà voir ce que c'est que la vraie souffrance, quand ça viendra ici... On sera armés, les amis. Donc, je ne sais pas encore sous quelle forme, je ne sais pas quand, je ne sais ni pas où. Enfin, où, si j'ai quelques idées. Mais on verra plus loin. En tout cas, voilà, je vous change. Je reprends le fil de mon message. Donc, on est à contre-courant. Voilà, j'avais prévu d'enchaîner là-dessus. On est à contre-courant. La liberté, on nous en fait aujourd'hui tout un... La liberté est devenue une religion. Nous sommes libres. Nous sommes libres au Christ. Mais les autres dehors, je vous promets qu'ils ne sont pas libres. Ils passent d'esclavage en esclavage. Des fois, ils cumulent des chaînes, des boulets aux pieds, encore plus gros les uns que les autres. Ils sont... C'est pas ça la liberté. La vraie liberté, elle est en Christ. Alors, c'est toujours des phrases qu'au début, dans ma conversion, j'entendais. Qu'est-ce que ça veut dire, la liberté en Christ ? Il y a quelque chose à vivre. Et ça, c'est quelque chose que je pense, même le meilleur théologien du monde ne pourra pas expliquer, parce que cette liberté que l'on ressent en Christ, c'est quelque chose que l'on doit vivre. C'est un cœur qui se brise, on le ressent quasiment physiquement. Je vous promets qu'on ressent quasiment physiquement le cœur qui se brise quand le Seigneur vient et prend de la place et qu'il élargit en plus cette plaie qui vient de s'ouvrir. Des fois, c'est douloureux. Des fois, ça fait du bien. Mais une chose est sûre, c'est quelque chose qui doit se vivre. C'est quelque chose qui doit absolument se vivre. Et je prie pour que vous puissiez vivre ça, vraiment. Plus on aura un cœur doux, tendre, qui verra la souffrance des autres, plus on arrivera à avancer, à se rapprocher de la stature de notre Jésus, afin qu'on puisse aussi faire avancer l'œuvre ici, à Beaune, vraiment. Et je voudrais vraiment qu'on soit des enfants aussi voilà, reconnaissants et démonstratifs. On l'a été tout à l'heure dans la louange. La louange, c'est aussi un de ces moments-là précieux pour qu'on puisse aussi être des vrais adorateurs. Alors c'est pareil, ce terme-là peut faire peur, peut sembler étrange au jour d'aujourd'hui, des adorateurs, voilà, ça fait tout de suite un grand mot un peu pompeux, mais c'est vraiment quelque chose que le Seigneur aime. Et je pense qu'aussi, si on a une bénédiction toute particulière en ce moment, dans notre église, c'est aussi parce qu'il voit des adorateurs tous les dimanches. Vraiment. Et j'espère que c'est pas que le dimanche, d'ailleurs. J'espère que c'est aussi en semaine où il voit des adorateurs. Parce que c'est ça aussi qui fait vraiment toute la différence. Il y a des autres mots aussi qui font peur. C'est le péché. Ça, c'est un mot qui fait très peur. Le péché, il faut se repentir. Ça, c'est pareil. C'est un grand mot. De tradition, de religion, il faut évidemment se repentir, c'est-à-dire se repentir, pour le dire de manière moins barbante, il faut juste prendre conscience que ce qu'on fait est mal. On prend conscience de ce qu'on fait est mal et on demande pardon à Dieu. C'est aussi simple que ça. Alors, ça, des fois, c'est simple à dire, c'est peut-être pas facile à faire, mais en tout cas, la repentance, ça passe par là. Et le péché, à la base, ça vient du mot hébreu rata, et ça veut dire manquer sa cible, manquer son but. Alors quand on le dit comme ça, bah, ça fait tout de suite un petit peu moins chape de plomb qui pèse sur nos épaules. C'est ça. En fait, Dieu, il ne veut pas qu'on loupe le but de notre vie, de la vie qu'il avait prévue pour nous. Il ne veut juste pas ça, en fait. Il ne veut pas qu'on loupe notre cible, il ne veut pas qu'on loupe notre vie, parce qu'il nous aime et qu'on est ses enfants. Est-ce qu'on a envie que nos enfants, ils loupent leur vie ? Non. Non. On a envie qu'ils fassent des belles études, qu'ils grandissent bien, qu'ils prospèrent, etc. Dieu, c'est encore ça, mais fois un milliard. Voilà, Dieu, il veut qu'on soit vraiment dans le plan qu'il a prévu pour nous. Et ça, ça passe aussi par l'écoute. Vous voyez, aujourd'hui, on nous vend le but de votre vie. On le vend sur YouTube, on le vend partout. C'est des conférenciers, des gens, on l'envoie partout. Des coachs de vie, des coachs de je ne sais quoi. Ils veulent vous... Viens, en 5 points, je vais te donner le but de ta vie, etc. Ça, on le voit partout. On le voit partout. Mais les amis, tout est là, hein. Tout ce qu'ils prennent, c'est du découpé, du réchauffé, avec des additifs, avec du colorant, de la sauce samouraï. Ils en font un tacos géant et ils vous donnent ça. Mais les nutritionnistes présents ici vous diront que ce qu'il y a de mieux, c'est la nourriture pas transformée. Et la pas transformée, elle est ici, les amis. La nourriture pas transformée, elle est là dans nos mains. Amen. Ne cherchons pas ailleurs. Tout est là. Et il veut que tous soient sauvés. On va lire un avant-dernier verset. 1 Timothée 2, s'il te plaît. Je te l'ai mis. 1 Timothée 2, 3, 4. J'ai un doute. Je crois que je t'ai fait une feinte là. Ok. Si, c'est bon. Merci. Je l'ai écrit là. J'ai pris cette version-là. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Verset 4. Que tous les hommes soient sauvés. Et comment voulez-vous que tous les hommes soient sauvés, sinon on n'est pas cette bouche qui parle ? Comment on n'est pas ces cœurs qui témoignent ? Comment on n'est pas ces témoins vivants ? Ils parviennent à la vérité, donc qu'ils soient sauvés, et parviennent à la connaissance de la vérité. Pourquoi ? Car la vérité vous rendra... Amen. Et je vais reprendre autrement, Jean 8, 32. On va le reprendre. vous connaîtrez la vérité, mais je vais vous le lire dans une version qui va me parler un peu plus. Je ne sais pas quelle sera celle qui s'affiche. C'est le second ? Non. 32. Ah, c'est moi qui ai mal écrit, pardon. 32, excuse-moi. 8:32. J'étais peut-être avec mes deux, ils ne sont pas terribles. Je vais vous le dire dans ma version, c'est pas grave. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et là, on va reboucler la boucle avec Pessah. On sera affranchi parce que c'est ce qu'on faisait aux esclaves. Nous étions esclaves avant de connaître Dieu. On était esclaves de nos péchés. Donc, quand je dis ça, repensez. On était esclaves parce qu'on loupait le but de notre vie pour Dieu. On était esclaves de nos péchés, on était esclaves de nos addictions, on était esclaves de tout un tas de choses. Les amis, si vous voulez connaître la conséquence du péché, si vous voulez prendre connaissance de ce que peut faire un péché, d'adultère, allez voir la vie de David. Si vous voulez savoir ce que c'est que les conséquences d'un péché d'alcoolisme, allez voir la vie de Noé. Si vous voulez voir les conséquences de ce qui peut se passer quand votre vie, vous avez l'impression que tout s'effondre et que tout devient désastreux, allez voir la vie de Job. Quand vous voulez voir, quand vous êtes dans la prospérité, que tout va bien, mais que vous avez l'impression qu'il vous manque l'essentiel, lisez l'Ecclésiaste, allez voir Salomon, ce qu'il dit. En fait, tout est là. Tout est là, les amis, tout est là. Ça ne sert à rien d'aller chercher plus loin, tout est là. Et en plus, on voit, on l'a déjà vu, que dans l'Ancien Testament, Jésus est là, il est là en filigrane, pour qu'il apparaisse dans notre vie aujourd'hui. Alors je vous repose la question. Que faisons-nous de notre liberté ? Qu'est-ce qu'on fait de notre liberté ? Le monde extérieur, ils ont cruellement besoin de nous. Cruellement besoin de nous. Ce n'est pas pour s'enorgueillir qu'on dit ça. C'est parce qu'on est le sel. Nous sommes la lumière. Amen. On est là pour ça. On est là pour rayonner. On est là pour briller. On est là pour que notre Église puisse apporter, au-delà d'une bouffée d'air frais, mais qu'on soit une source de bénédiction vivante. Soyons cette bouche qui parle, cette bouche qui est fière de ce que Jésus a fait pour nous dans nos vies. Et qu'on remette surtout de l'ordre dans nos priorités, les amis. La Sainte-Seine, elle est là pour ça. Il y en a certaines églises, ils le font tous les dimanches à Sainte-Seine. Je trouve ça bien. Enfin, personnellement, je trouve ça bien. Après, voilà, le problème, c'est qu'on est des hommes et des femmes, hein, mais qu'on s'habitue très vite. On devient. L'habitude nous rend oublieux, etc. Et du coup, on se retrouve avec la première situation que je vous ai donnée, où on fait des choses par tradition, on devient des religieux, on ne sait plus pourquoi on le fait. Le fait de le faire une fois par mois, je trouve que au moins ça a le mérite d'essayer de rendre les choses peut-être un petit peu plus solennelles, parce que le solennel, il faut que ça revienne aussi un petit peu au goût du jour. Donc c'est ce qu'on a fait ce matin, c'était se rappeler. Alors, on fait notre devoir de mémoire, encore une fois, Ricardo l'a très bien fait ce matin, merci encore pour ta sincérité. Donc voilà, tout simplement les amis, qu'on remette Dieu à la place qui est la sienne, c'est-à-dire la première, qu'on lui demande le chemin qu'il a prévu pour notre vie, qu'on ne laisse pas les coachs YouTube, etc., nous donner la direction, parce que la direction, il n'y a que le Saint-Esprit et Dieu qui peut nous la révéler. On peut lire des conseils très bons dans la Bible, on a tout ce qu'il faut, on est une famille, on est là pour s'aider, on est là pour s'entraîner, personne n'est seul, on a vraiment envie de vous accompagner aussi à grandir spirituellement. On a tout un tas de choses à vous proposer. On est là pour vous mettre au travail, dans le bon sens du terme. On a envie que vous soyez participants de cette œuvre, parce que vous allez voir que le jour où vous allez commencer à mettre le pied dans l'œuvre et que vous allez participer vraiment, votre vie va changer. Et par la grâce de Dieu, la vie de votre famille et de notre ville va changer. L'idée, c'est, Ricardo l'a très bien redit ce matin aussi, c'est qu'il faut... Il faut avancer. On ne peut pas vivre une vie de chrétien du dimanche, passez-moi l'expression, mais où on est là sur une chaise et les dimanches passent et il ne se passe rien. C'est impossible. Sincèrement, c'est impossible. Parce que je vous promets que quand on commence à servir Dieu, alors on est challengé, ça nous étire, c'est difficile, mais on s'aperçoit aussi de la grâce de Dieu et de tout ce qu'on peut apprendre. Et on passe à côté de tellement de choses. On passe à côté de tellement de choses. Hier, je n'avais pas prévu de le dire, mais je vais vous le redire aussi parce que je l'ai partagé ce matin au temps de prière. Hier, on a eu un apôtre de Belgique. Il est belge, non ? Il est suisse, excusez-moi. Désolé, les Suisses, les Belges. Il a monté, je ne sais pas combien d'églises, une cinquantaine, non ? Martin ? Combien ? Une centaine, pardon, en plus je minimise le chiffre. Une centaine d'églises. Il a eu un AVC, disons qu'il n'existe pas. Il a eu un AVC la semaine dernière. il y a 4 mois, pardon, excusez-moi, je suis fatigué. Il y a 4 mois. Merci, merci beaucoup. Ouais, bon, c'est... Je vous dis que j'avais souffert cette semaine, alors du coup, les connexions ne sont pas encore rétablies. Donc il a eu un AVC il y a 4 mois, comme je vous avais dit, et il a recouvré très très vite la santé, par la grâce de Dieu. Il était sur son lit d'hôpital, et lui, c'est un gars de prière, etc. Il a monté 100 églises, il a voyagé dans le monde entier, et en fait, il a compris sur son lit d'hôpital que Dieu lui avait juste demandé de ralentir, en fait. Et des fois, on se dit, mais pourquoi ça tombe sur moi? Je suis ton serviteur, Dieu, tu peux me guérir instantanément? Oui, il peut. Oui, il peut. Mais est-ce qu'il n'a pas un message à te faire passer? Et il a eu l'humilité, ce brave homme, Martin Bulman, qui a écrit un livre, d'ailleurs, faut que je le dise, il a eu l'humilité de reconnaître que il a passé 90% de son temps à faire les choses par lui-même et 10% à écouter le Saint-Esprit. Et il a monté 100 églises. Et il nous a dit, vous avez imaginé si j'avais pu inverser les proportions, je ne serais pas à 100 églises, il serait à 90 fois 100. Donc ça fait un grand chiffre. Donc voilà, il nous a partagé ça hier et j'ai été tellement ému de sa simplicité, du message qu'il nous a délivré, les amis. Je vous encourage vraiment à être participant de l'œuvre. Et puis voilà, prier, un service dans l'église, on a plein. Il y a la sono, il y a le chant, il y a le ménage, il y a l'accueil. Il y a plein de choses, et puis plaise à Dieu, on a des projets où peut-être qu'on sortira de ces locaux et qu'on aura encore plus de choses à faire. Il y a les enfants, j'ai dit les enfants ? Non, les enfants. Très important, les enfants. Je disais que c'était l'église de demain, mais c'est l'église d'aujourd'hui. Si on ne les a pas repris ce matin parce qu'elles dansaient devant, parce qu'on a une famille, et puis que Dieu a dit laissez venir à moi les petits-enfants, et finalement leurs danses, je pense qu'elles plaisent à Dieu, donc on n'a pas envie de les reprendre. Bon, des fois si, mais... Quand elle déborde pas trop, mais voilà. Donc on a une famille, donc on accepte les enfants comme ils sont, et on s'accepte nous les uns les autres. Donc je vous encourage vraiment à être participant de l'œuvre de Christ. Demandez à Dieu, si vous n'êtes pas dans un service, dans quel service vous voulez aller. Demandez à Dieu de vous révéler des choses, de vous montrer toutes les blessures passées qui peut-être encore vous ne lui avez pas confiées, vous ne lui avez pas remises, parce qu'il peut vous guérir, soyez-en assurés. Soyez-en vraiment assurés, il peut vous guérir. Il l'a fait pour beaucoup, il l'a fait pour moi. Donc on veut témoigner de ce qui s'est passé. On va reprendre un dernier chant en guise de conclusion, les amis. J'invite l'excellent groupe de louanges à revenir. On va chanter de tout notre cœur pour terminer ce culte de Pâques aujourd'hui. Merci encore.